Eh bien, bonjour à tous. Très heureux ce matin de partager la parole avec vous et de continuer le thème de ce trimestre qui a été fort bien introduit par le Saint-Esprit ce matin à travers les prières, la prière libre, parce que le thème, c'est le royaume de Dieu ou règne de Dieu. Oui, je le veux. Alors oui, je le veux, ce n'est pas le dernier slogan d'une marque cosmétique un peu à la mode ou bien connue, du genre « oui, je le veux bien ». Mais je crois que c'est ce que la parole veut nous amener à dire ou à redire ce matin. Paul, notre pasteur, a rappelé dimanche dernier que Dieu a laissé dans sa parole des balises. Dans l'histoire, il a laissé des balises pour nous révéler son royaume. Il nous a raconté, pour ceux qui étaient là, ses mésaventures en randonnée avec son fils Joseph, qui a loupé les balises, et du coup, ils se sont perdus. Et bon, et après, apparemment, et c'est ça aussi l'Église, je crois qu'il y a une soixantaine de personnes qui sont allées taquiner Joseph à la sortie du culte. Voilà. Donc je pense qu'on va refermer la parenthèse des balises maintenant, une bonne fois pour toutes. Et ce matin, je vous propose qu'on s'arrête sur l'une d'elles en particulier. C'est la parabole des noces, ou parabole des invités, ou encore parabole du festin royal. Et on va la lire en Matthieu 22, versets 1 à 14. Il faut que j'appuie sur quel bouton, Alexis ? Ah, c'est mieux. Voilà, bah tu peux le faire passer ici. Voilà, merci. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, il y en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt, venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. » Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas l'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux serviteurs, « Prenez-le, jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. » J'ai conscience que ce matin, peut-être on n'est pas tous familiers avec le style littéraire de la parabole. En gros, rapidement, une parabole, c'est un récit fictif qui parle du royaume de Dieu en utilisant la comparaison. J'aime beaucoup parce que les paraboles, ce sont des paroles directes de Jésus. Alors ce sont certes des récits fictifs, mais qui nous parlent de réalité de son règne. Ici, cette parabole des noces, elle fait partie d'une trilogie de paraboles dans lesquelles le Seigneur répond au chef religieux qui essaie de le prendre au piège sur ses propres paroles. Ces chefs religieux provoquent Jésus. Ils sont hostiles à la personne du Seigneur. Il rejette la pensée qu'il puisse être le Fils de Dieu. Et on pourrait résumer la motivation de Jésus quand il utilise les paroles à ça. Écoutez, je vous ai déjà dit tout ça me concernant. Vous ne comprenez pas. Vous ne voulez pas entendre. Mais maintenant, que voulez-vous ? Vous voulez que je vous le dise comment ? Et c'est pour ça qu'il utilise les paraboles. Une petite anecdote rapide. Bon, vous savez, je suis kiné et au cabinet, on reçoit beaucoup de patients après des interventions, des chirurgies de l'épaule. C'est-à-dire qu'ils ont les tendons qui sont déchirés. Le chirurgien va réparer, rattacher les tendons. Et donc, tout ça, c'est fragile. Il y a un protocole à suivre. Il y a un cadre à respecter. Et je me souviens d'un patient, ancien rugbyman, D'accord ? Ça vous met peut-être la puce à l'oreille, mais ancien rugbyman sur ce qui va se passer. Et donc, je lui explique bien les consignes, je lui explique le protocole. Je lui dis ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Au début, c'est exclu de pouvoir porter du poids, parce que sinon, ça risque de lâcher. Et si ça lâche, ben, ce n'est pas bien. Et nous, on s'engage auprès du patient. C'est-à-dire que le chirurgien nous le confie, et nous, on s'engage à le mener à la bonne récupération de son bras. Et donc, il me dit oui, j'ai bien compris, très bien. On prend la voiture, et vous savez, le monde est petit, on prend la voiture avec Amélie, et je lui dis, attends, je ralentis, à l'entrée d'une vigne, comme ça, je penche la tête, et qui c'est que je vois ? Mon patient, mon ancien rugbyman. Alors, il me regarde, je le regarde, et je lui fais comme ça. Il était en train de charrier des souches de vigne pour son barbecue. Voilà, et donc la séance d'après, ben, je l'ai un petit peu sermonné. Je lui ai dit, tu sais, c'est pas prudent ce que tu as fait, tu menaces la bonne récupération. Et lui, il m'a dit, bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, j'ai le meilleur kiné. Alors, c'est très sympa. Je lui ai dit, c'est très sympa de ta part, mais je lui ai expliqué comment c'est pas possible pour nous de nous engager dans une prise en charge pour un patient qui va pas respecter le cadre, qui va sortir du cadre. Alors ce matin, il n'est pas question de santé, mais d'une noce. Il est question d'un mariage. Du temps de Jésus, un mariage, c'était un rite qui se déroulait en quatre temps. Il y avait le temps de la promesse. L'époux se présentait chez sa future épouse, à la maison de sa future épouse, avec une promesse. Ensuite, il y avait le temps des fiançailles. C'était déjà une première étape. Après les fiançailles, il y avait un troisième temps de préparation. Et ensuite, il y avait alors ce temps de préparation durait au moins un an. Et ensuite, il y avait le dernier temps, c'était vraiment la célébration du mariage. D'accord ? La promesse, les fiançailles, le temps de préparation, et puis la célébration du mariage. Et la célébration du mariage, ça durait 7 jours. 7 jours de fête. C'était très festif. Mais voilà, dans ce récit, ce matin, malgré le contexte festif des noces du mariage, on peut lire aussi des mots comme colère, comme extermination, amertume, pleurs. Alors je me pose la question, pour nous, ce matin, ça serait donc ça le royaume de Dieu ? Mais pour commencer à répondre à cette question, qui dit mariage dit... C'est pas grave. Qui dit mariage dit faire part. Eh oui, en effet, le Seigneur, Dieu, a envoyé un faire part il y a bien longtemps, un faire part venu du ciel. On trouve des traces de ce faire part venu du ciel dans l'Ancien Testament, dans Genèse 17. Abraham se prosterna, la face contre terre, et Dieu continua de lui parler en disant, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre de multitudes de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. » En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai, ainsi qu'à ta descendance, ce pays de Canaan, où tu vis maintenant en étranger, en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité et je serai le Dieu de ta descendance. Voilà, après la chute, après la séparation de Dieu avec son peuple, voici la bonne nouvelle d'une union à nouveau possible. Dieu annonce le cadre de l'alliance. Dieu, il annonce déjà comment il veut régner. Dieu nous annonce la structure de son royaume. Il dit, vous serez mon peuple dans le territoire que je vous ai prévu sous ma seule autorité. C'est ça le cadre de l'Alliance. Mais revenons à notre parabole. On comprend que malgré ce faire parvenu du ciel, il y en a beaucoup d'invités qui restent à leurs occupations et leurs préoccupations de la vie de tous les jours. Ils ne viennent pas aux noces. Alors autant, je peux comprendre que dans le cas d'une invitation de dernière minute, on ne soit pas forcément dispo. Mais là, le faire-part a été envoyé 1000 ans à l'avance. 1000 ans à l'avance. Comment c'est possible ? Même plus de 1000 ans à l'avance. Avec Amélie, nous, je pense que vous, c'est pareil, quand on reçoit un faire-part, ben, c'est une bonne nouvelle. D'accord ? Donc la première chose qu'on fait, on prend un magnète, hop, on le pose sur le frigo, on commence à regarder la date, on commence à réfléchir à faire garder les enfants, est-ce qu'on dort là-bas, pas là-bas ? Comment est-ce qu'on va s'habiller ? Voilà. Et puis, si quand on ouvre le faire-part, il y a le petit papier en plus qui dit « Nous serions heureux de prolonger avec vous les festivités avec le repas du soir », ben là, on est très content. Alors là, on réserve tout. Mais on se faisait la réflexion il n'y a pas longtemps que plus on vieillit et plus les invitations sont rares. Hein. Donc, d'autant plus aujourd'hui, quand on a un faire-part, on est content. C'est un événement pour nous. Voilà, c'est un événement. Mais là, dans le cadre de l'histoire d'Israël, eh bien, du peuple d'Israël, c'est comme si le faire-part avait été égaré, perdu. Hein, je parle de la réaction des chefs religieux. On en reparlera après, mais malheureusement, c'est arrivé souvent. Et Dieu a dû renvoyer plusieurs fois le faire-part. Mais la lumière des évangiles et de cette parabole, dans laquelle le roi envoie quand même ses serviteurs pour exterminer les invités de la première heure, et c'est Jésus faisant là une allusion claire et directe au peuple d'Israël, on peut se demander si Dieu en aurait fini avec Israël. Est-ce que Dieu se serait lassé ? Ben non, pas du tout. Parce que la Bible, elle est tout entière, elle montre tout entière que Israël a été l'outil de la révélation du royaume de Dieu. Et Dieu nous montre qu'il est patient. Il y a un pasteur et théologien, John Timmer, je ne sais pas si vous avez déjà lu, qui dit « En réalité, en rejetant Jésus, Israël a enrichi les païens. On a été enrichi. » Donc, et en plus, il est bon de se rappeler que les premiers chrétiens étaient juifs. Hein. Donc, nous, encore aujourd'hui, le Seigneur n'a pas du tout fini avec Israël. La parabole nous dit ensuite que le roi envoie ses serviteurs pour convier aux noces des personnes de toute nature, méchants, bons, mendiants, tous ceux qui trouveraient au carrefour des rues. Alors si les invités, on le comprend, font référence à Israël, les invités de la première heure font référence à Israël, dans le contexte, eh bien nous, on peut nous identifier à qui ? Facilement, on peut s'identifier aux invités d'après, de la dernière heure. Et cela, pour moi, ça soulève une autre question. Est-ce que Dieu se tournerait vers nous par défaut ? Est-ce que Dieu improvise ? Parce que si c'est le cas, alors je peux mettre en doute ma légitimité. Est-ce que Dieu m'invite vraiment ? Et on peut mettre la slide d'après. Ah ben ça y est, ça marche maintenant. Sauf que c'est à l'envers. Voilà. Est-ce que Dieu m'invite vraiment ? Ou est-ce que je suis une pièce rapportée ? Invitée aux pièces rapportées. Si on commence à laisser ça s'installer, alors on s'expose à un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous connaissez. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on doute de notre place dans un domaine de notre vie. C'est une crise de légitimité. Ça peut nous toucher dans notre travail, dans notre famille, dans notre rôle de parent, et ça peut nous toucher dans notre ministère. Et ce n'est pas sans conséquence. Je pense qu'on est peut-être nombreux à l'avoir vécu à un moment donné de notre vie, sans avoir forcément mis des mots dessus. Et ce que dit le Seigneur dans cette parabole, ce n'est pas du tout pour nous amener à ce syndrome, bien au contraire. Parce que si c'est le cas ce matin, le Seigneur veut nous en libérer. Amar Djabala, vous vous souvenez d'Amar Djabala, il était venu à un carrefour de l'enseignement. Il précise dans un commentaire que la racine du mot grec utilisé par Matthieu dans ce passage, c'est kaléo, qui signifie invité. Et cette racine kaléo, elle donne deux mots grecs. Elle donne le mot kletoi, c'est le mot appelé, et eklektoi, le mot choisi. Les kaléo, c'est-à-dire les invités, eh bien, ce sont tous ceux qui vont former la nouvelle communauté, le peuple de Dieu. Ce sont à la fois les appelés, les choisis. Donc à la lumière de ça, je crois qu'on peut s'inclure en toute légitimité dans les caléos, dans les invités. Et on peut se sentir à l'aise avec ça. Ailleurs, dans les Épîtres, l'apôtre Paul nous dit, dans Galates, il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Encore une fois, ça veut dire qu'il n'y a pas de syndrome de l'imposteur possible dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de pièce rapportée dans le royaume de Dieu et nous ne sommes pas des invités par défaut. Si on en doutait encore, et pour vraiment nous en libérer, on peut se rappeler de Jacques 1,17. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation dans le Père. Et dans Romains 8, on peut lire qu'il nous a appelés conformément à son plan. Dieu dans son règne ne fait pas d'exception de personne. Il ne change pas. Pardonnez-moi l'expression, et je vais refermer cette partie, c'est que nous ne sommes pas les bouche-trous du royaume. Mais notre Père nous connaît de toute éternité. Et il nous appelle conformément au cadre de son alliance. Amen. Dans la dernière partie de la parabole, on peut lire ensuite que le roi reproche à un invité de ne pas avoir la tenue correcte. La tenue de noces, et on peut dire que ça se finit plutôt mal pour lui. En fait, dans la tradition juive de l'époque, les invités se présentaient à la porte de la salle de mariage, la porte de la salle de réception, et c'est là qu'on leur remettait l'habit, à l'entrée. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet invité n'ait pas la tenue correcte exigée? Est-ce que cet invité serait rentré par une porte dérobée? Est-ce qu'il serait rentré par la petite porte arrière de la salle, en catimini? Je crois que cet invité dans la parabole, il n'est pas rentré par la bonne porte. Il n'est pas rentré par le bon cadre. Il n'est pas rentré par la bonne porte. Et c'est pour ça qu'il n'a pas la tenue de noces, la tenue correcte exigée. Je crois que pour nous, c'est le point culminant de cette parabole. Le Seigneur, il veut nous interpeller sur deux choses. Sur le bon cadre de l'Alliance, autrement dit la bonne porte, et sur nos vêtements. De quoi nous sommes vêtus, revêtus? Comment ça peut marcher pour nous? Tout à l'heure, j'ai parlé du faire-part du ciel qui a été envoyé et oublié. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa patience, a renvoyé plusieurs fois ce faire-part dans l'histoire. Et c'est ce qu'il a fait, entre autres, avec le prophète Jérémie. On va se resituer rapidement dans le contexte du prophète Jérémie. On est à peu près en l'an moins 600. Et le royaume, bon, Juda et Israël sont séparés. Le royaume de Juda, le royaume du sud, où il y a Jérusalem, vit une période assez faste, une période de prospérité. Et elle a une réputation, c'est que Jérusalem est réputée politiquement inviolable. Alors qu'il y a la pression de Babylone, elle est réputée inviolable et que jamais elle tombera. Et là, si on se met à la place des habitants du royaume de Juda, on peut se dire que bah, ça y est, le royaume est établi, puisqu'on est dans le lieu prévu par Dieu, on est son peuple et on est sous sa seule autorité, ou presque. Parce que malheureusement, et vous pourrez le lire dans Jérémie, il l'exprime différemment, mais c'est que le peuple a glissé petit à petit vers les compromis, vers les idoles. Il est devenu de plus en plus mondain. Il a d'autres dieux. Il se soustrait petit à petit de l'autorité seule de Dieu. Et il sort tout seul du cadre. C'est ça que Jérémie pointe du doigt. Même si le roi Josias mettra un peu d'ordre dans tout ça, ce fut qu'un retour religieux, parce que les cœurs, en fait, ils n'ont pas vraiment changé. Et c'est dans ce contexte que Jérémie, seul contre tous, moqué, laissé à la marge, il va annoncer à la fois la chute du royaume de Juda, il va leur dire, ben là, il va y avoir un jugement de Dieu sur votre ville, et à la fois la restauration future. Oui, une restauration en vertu de l'alliance faite à Abraham. Dieu va à nouveau délivrer et restaurer son peuple par une alliance renouvelée. Et cette fois-ci, ce sera une alliance de grâce. Donc, Dieu n'abandonne pas Israël, bien au contraire. En vertu de cette nouvelle alliance, la communauté des invités, les Caléo, sera à nouveau le peuple de Dieu, dans l'endroit prévu par Dieu et sous sa seule autorité. C'est dans ce contexte, et dans la perspective des nouvelles dimensions du cadre de l'Alliance que la parole, on se souciait du vêtement, des habits de noces, ben là, la parole, elle va nous mettre sur notre 31. Elle va nous mettre sur notre 31, en Jérémie 31-31, justement. Pas mal, hein ? Ouais, pas mal. Merci, Seigneur. Mais les jours viennent, déclare l'Éternel, où moi je conduirai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en vertu de cette nouvelle alliance, tu peux te présenter à la porte de la salle du mariage, la porte de la salle des fêtes, à la porte du royaume, avec assurance et confiance. Parce que à cette porte, à ce cadre de l'alliance, le Seigneur nous attend pour nous revêtir. Parce qu'il est plein de grâce, parce qu'il veut nous mettre sur notre 31. Le Père a déclaré, après le baptême du Seigneur, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il faut bien comprendre que le Seigneur, c'est l'Israël de Dieu. C'est en lui que se réalisent toutes les promesses. C'est en lui, pour lui et par lui que l'alliance, celle de Jérémie 31, est scellée. La tenue de soirée, c'est lui. Dans la tradition juive, l'époux devait se présenter au moment des promesses chez sa future fiancée avec trois choses. Il devait avoir une forte somme d'argent, un contrat de mariage et une outre remplie de vin. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Christ, en tant qu'époux, promis à son Église, il a déposé sa vie en rançon à la croix, c'est la somme d'argent de l'époux. Il a présenté le cadre de l'alliance, c'est le contrat de mariage. Et il a versé son propre sang pour sceller cette alliance, comme l'époux qui présente l'outre de vin. Alors honnêtement, je ne sais pas vous, mais quand j'ai médité ça, j'ai été très touché par la perfection et la cohérence de la parole. Et je vais ouvrir une courte parenthèse. C'est que Moïse, dans les instructions qu'il a laissées, dans le Talmud, Moïse n'avait pas laissé de directive concernant les rites et la cérémonie de mariage. Il n'avait donné aucune indication. Et pourtant, siècle après siècle, c'est inscrit dans le cœur des appelés une manière inspirée de procéder au mariage. Un déroulement qui renvoie directement à l'œuvre du Seigneur, dans les moindres détails. Je trouve ça magnifique de voir comment Dieu règne, comment Dieu orchestre l'histoire autour de la personne de son Fils. Et comment le mariage terrestre a un écho avec ses desseins pour nous, avec ce qu'il a prévu pour nous. Et ma parenthèse, c'est que c'est là qu'on voit que le mariage tel que le monde le conçoit est inconcevable pour nous qui croyons en Jésus. L'acte de mariage entre un homme et une femme, ce n'est pas une invention humaine. On ne peut pas en faire ce qu'on veut. Parce que le mariage, c'est vraiment un type de l'amour infini de Dieu pour son peuple. Je ferme la parenthèse. Alors voilà, même si en apparence le règne de Dieu ne semble pas si festif, cette parabole, elle nous parle de l'espérance qu'il est à notre. Jésus, l'époux, aime son Église. Elle reviendra pour elle. Il reviendra pour elle. Et s'en suivra la fête annoncée, selon sa volonté. Et ça aussi, on l'a entendu dans les prières ce matin, selon sa volonté. Et c'est la conclusion de ce message. Que ta volonté soit faite. Voilà. Sympa. Alors, je dois partager le mérite avec Paul, notre pasteur, avec qui je me suis entretenu et qui me l'a soufflé aussi. Donc, il n'y a pas de faute d'orthographe. Que ta volonté soit faite. Parce qu'Éléonore m'a demandé s'il y avait une faute d'orthographe. Je lui ai dit non. Aujourd'hui, on vit dans cette période entre le déjà-là, le pas encore, entre les fiançailles et la cérémonie de mariage. En attendant la lune de miel, quand le Seigneur viendra nous prendre avec lui, eh bien, nous nous préparons. C'est bien ce que l'on fait aujourd'hui, chaque dimanche, chaque fois qu'on se réunit en église, entre chrétiens, pour écouter sa parole, toute notre vie. En l'attendant, nous nous préparons. Et ce matin, on peut voir combien la parole du Seigneur, elle est puissante. Sa parole, les mots. Parce que je trouve que quand on lit cette parabole, et c'est pareil avec les autres, eh bien on est comme aspiré par le récit. C'est comme si le récit nous amenait, petit à petit, à nous identifier et à nous positionner. Dans quelle personne du récit je me retrouve ? À laquelle je m'identifie ? Plutôt chef religieux ? Plutôt invité de la première heure ? Plutôt invité de la deuxième heure ? Plutôt avec l'habit de noces, sans l'habit de noces, plutôt pièce rapportée. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé ici, c'est qu'au départ, quand on lit l'histoire, on a l'impression qu'il y a deux personnages qui sont complètement opposés, très éloignés l'un de l'autre, alors qu'en réalité, ils sont très très proches. Est-ce que vous avez une idée ? En fait, il y en a deux personnages qui ont en commun d'avoir une foi en apparence, une foi dépourvue de fruits, une foi sans les œuvres. Ben, ces deux personnages de l'histoire, c'est le chef religieux, lui il a vraiment existé, et l'invité qui n'a pas l'habit de noces. Il y en a un qui s'abrite derrière la loi, et l'autre qui s'abrite derrière une façade. Alors que le roi, lui, il attend des adorateurs en esprit et en vérité. Il n'attend pas des adorateurs en religiosité, en apparence, il attend des cœurs entiers. Et je crois que la parole ici m'amène, sans me faire la morale, sans légalisme, sans contrainte, à m'examiner. La parole, elle nous met dans l'humilité. Je ne sais pas où la parole amène notre cœur ce matin, mais quand même, je sais que quant au royaume de Dieu, il y a trois bonnes nouvelles qu'on peut déduire de cette parabole. Trois vérités du Seigneur pour nous, pour nos vies. La première bonne nouvelle, aucun l'aurait oublié, c'est que le faire part du ciel nous est aussi adressé. Sache ce matin, au cas où tu l'aurais oublié, que toi aussi tu es invité au festin royal. Cela ne dépend pas de toi, mais de la seule grâce de Dieu. Le roi de l'univers nous invite. C'est comme ça qu'il règne. C'est génial. Deuxième bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec... Ce que tu vas mettre, est-ce que ton costard s'accorde bien avec la robe de ta femme ? Tu n'as pas besoin de dépenser des fortunes pour savoir comment tu vas t'habiller pour cette noce. Parce que c'est lui qui t'habille. Alors peut-être qu'on a passé beaucoup de temps, peut-être qu'on réalise qu'on a passé beaucoup de temps à se prendre la tête, qu'on a dépensé de l'énergie pour se trouver un costard ou une robe de soirée nous-mêmes, pour en fait se fabriquer un habit nous-mêmes. Peut-être que conduit par la peur de l'imposture, on s'est couvert de vêtements humains, on s'est fabriqué une image. Mais le Seigneur nous appelle à nous dépouiller de tout cela et à revêtir l'homme nouveau. Galates 3, 27. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. L'invité refoulé, il était bien présent à la fête. Il était présent pour célébrer, du moins en apparence. Mais ses vêtements ne témoignaient pas en extérieur d'une transformation intérieure. C'est ça que nous dit la parabole. Paul, notre pasteur, nous a déjà un peu bousculé par rapport au baptême dimanche dernier. Et franchement, au départ, ce n'était pas trop mon intention d'en remettre une couche ce matin. Mais le fait est qu'il est aussi question du baptême. Car oui, c'est par la foi seule que nous revêtons le Seigneur, mais le baptême, il est le symbole visible de notre union à lui. Le baptême, c'est le signe extérieur visible que par la foi nous avons revêtu Christ. Et il n'est pas question que du baptême. Bien sûr, il est question de tous les fruits qui témoignent de la puissance de l'Esprit qui opère en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la douceur. Et cette liste de l'apôtre Paul, elle n'est pas exhaustive. C'est en Galates 5. Il est question de toute œuvre qui rend témoignage à l'Évangile. Et se faire baptiser en fait partie. Dans le baptême, il y a un dépouillement. Du temps de Jésus, les baptisés, il y avait tout un rite. Et d'abord, ils quittaient leurs vêtements. Ils se mettaient à nu avant de rentrer dans l'eau. Puis après avoir été immergés, sortis de l'eau, avec tout ce que ça veut dire, ça voulait dire à l'époque, et ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, bien après ça, ils étaient revêtus de vêtements neufs. L'acte du baptême chrétien, il est directement lié à l'acte de la croix. À la croix, le Seigneur, il a pris notre place et il a fait un échange. Il a pris sur lui nos vêtements de misère pour nous remettre son manteau de gloire, les habits de noces. Et c'est comme ça que Dieu règne aussi. Il accomplit pour nous ce que nous ne pouvons pas faire tout seul, par nous-mêmes. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne fait pas d'exception de personne. Ça veut dire que tout le monde peut venir. Peu importe d'où on vient, le poids du compte en banque, notre histoire, si on est bon, méchant, selon ce monde, selon la loi, on peut venir se présenter en toute humilité dans le cadre de l'Alliance. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses, Dieu t'invite à la fête selon sa volonté. Et simplement, nous avons juste à lui répondre, ou peut-être à reconfesser dans notre cœur ce « oui, je le veux ». Le « oui, je le veux ». Mais un « oui, je le veux » au Seigneur. Oui, Seigneur, je veux vivre ta promesse. Oui, Seigneur, je désire vivre dans le cadre de ton alliance et ne pas en sortir. Oui, Seigneur, je veux déposer mes vêtements humains et te laisser me couvrir de ta grâce. Oui, Seigneur, je désire être uni à toi. Oui, Seigneur, je désire porter du fruit et me revêtir toujours plus d'œuvres bonnes. Oui, Seigneur, je désire que tu règnes sur moi, toi seul. Alors, je vais prier. Seigneur, quel mystère que tu te sois choisi, un peuple si insignifiant aux yeux du monde, si faible et à la marge, un peu comme Jérémie, afin de te faire connaître et de faire connaître l'infinie richesse de ta grâce. Merci Seigneur, parce que ton règne, c'est d'abord une invitation. Tu nous invites, nous les Caléos, à venir à toi pour échanger. Échanger notre condition de pécheur en condition d'homme et de femme graciés. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous justifie dans le cadre de ton alliance. Merci parce que notre espérance, c'est qu'un jour, viendra où on sera entièrement ton peuple, dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre. C'est ce que tu as prévu, dans la plénitude de ta présence, Seigneur. Et sous ta seule autorité, ta seule bienveillance et ton seul règne. Amen. Voilà, je vais terminer ce message. J'espère que vous avez compris que c'était festif. C'est pas pour accabler, c'est pas pour nous charger, mais c'est pour nous libérer de tout ce qu'on pourrait aspirer à faire humainement. Mais simplement, voilà, laisser le Seigneur nous revêtir de sa grâce, de son manteau. Et quelle belle transition, parce que j'ai parlé du baptême, pour inviter Corinne pour ce temps de Sainte-Seine. Voilà.